Mais pourquoi vous riez? C'est sérieux, une sage-femme. Et il y a aussi un enseignement qui se relie à la mère et la sœur de Moïse, qui étaient les Mialedot, qui étaient celles qui aidaient l'engendrement d'Israël à la sortie d'Égypte. Ça, vous verrez d'autre part. Mais ici, c'est clair que Sarah a perçu par où doit passer l'avenir. Et elle décrète, ça passera pas par Ishmaël, ça passera par Yitzhak. Pas seulement parce que Yitzhak est son fils à elle, mais pour les raisons pour lesquelles il est son fils à elle. Im beni, im Yitzhak. C'est clair? Et où est la différence? C'est que voilà, Ishmaël rit au présent, alors que Yitzhak est destiné à rire à la fin des temps, dans l'avenir. Il rira. Là encore, le français peut nous aider. On pourrait dire, et c'est pas une blague, rira bien qui rira le dernier. Parce que, oui, on commence à rire, alors on doit être un peu déjà en ce temps-là. Bien, c'est vrai, pendant 2000 ans, le côté de la Maharavi, c'est le mur des pleurs. Et vous avez remarqué qu'on commence à rire au côté de la Maharavi. Ça chante, ça danse. À Yom Yerushalayim, vous avez dû y être d'ailleurs. Alors ça, on n'avait pas vu depuis 2000 ans. C'est Yitzhak qui est en train de naître. Et alors tout le monde rit d'ailleurs. Même l'ONU. Voilà, premier enseignement, c'est au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne Darash Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva enseignait En Srokam Murkam et la Avodazara. Le rire dont on parle ici, il s'agit de l'idolâtrie. Et ici, un verset où on voit que dans les rites de l'idolâtrie, il y avait des rires sacrés. Ça, je vous renvoie au mythe grec, si vous les avez connus, vous avez étudié ça, les orgies de l'idolâtrie, où il y avait cette atmosphère du rire de l'idolâtrie. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, Omer, En Ze et la Gilul Arayot. Rabbi Eliezer dit, ce rire, c'est la débauche. Vous savez que cette expression, Gilul Arayot, c'est pas exactement la débauche. C'est à la fois plus et moins. Mais ça, vous étudierez d'autre part, c'est un problème de halakha. Mais disons provisoirement la débauche. Et effectivement, vous connaissez les orgies de débauche où il y a le rire, le rite du rire, de cet éclat de rire grossier qui s'attache à ces manifestations. Que ce soit l'idolâtrie, que ce soit la débauche, d'ailleurs, Rabbi Akiva, dans un autre endroit, enseigne qu'on fait la même chose. Ces trois choses dont on va parler, c'est la même chose. Et le troisième, c'est Rabbi Yoshua, si je me souviens bien. Oui, Rabbi Yoshua qui dit Zoshuichut Damim, c'est le meurtre. Alors, ça prend des proportions encore beaucoup plus grandes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rire? Eh bien, il y a l'idolâtrie, il y a la débauche, et il y a le meurtre. Et chaque fois, on cite un verset. On sait d'autre part qu'il y a des rites de l'idolâtrie, des rites... Bon, ce rire qui accompagne ces actions dénoncées. Voilà les trois enseignements de trois grands. On peut dire les trois étaient les maîtres Rabbi Shimon Bar Yochai, mais surtout Rabbi Akiva. L'un dit, c'est l'idolâtrie. L'autre dit, c'est la débauche. Et le troisième dit, c'est le meurtre. Rabbi Shimon Bar Yochai continue en disant, Vani Omer, et moi je dis, Chas Veshalom, Dieu préserve, Shei et Bebeto, chez l'autre tzadik, qu'il y ait dans la maison de ce tzadik, il s'agit d'Abraham, Michel Osekem, quelqu'un qui fait comme ça. Alors imaginez la scène, c'est un fils d'Abraham qui habite chez Abraham, Sarah le voit rire. Les rabbins disent, elle va déclencher la séparation entre Ishmaël et Yitzhak. Pourquoi? À cause de ce rire. Et ce rire séparé, voilà ce qu'elle a vu. Beruach HaKodesh, elle a vu que c'est le rire qui annonce une identité de débauche, de meurtre, d'idolâtrie. Et on va revenir là-dessus, qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit tout de suite, et il sait ce qu'il veut dire, mais comment c'est possible dans la maison d'Abraham, c'est clair? Donc. Et il dit, elle là, mais... Cela signifie Enschok ze la Yerusha. C'est un rire de contestation sur l'héritage. Ça veut dire que chaque fois qu'Ishmaël parle des prétentions d'Isaac à être l'héritier d'Abraham, il rit. Il se moquait de lui. C'est un rire de dérision que les Juifs réclament la Palestine. Alors vous entendez le rire d'Ishmaël là-dessus. Okay. Vous étiez jeune, mais je me rappelle quand c'était Nasser a nationalisé le canal de Suez. Vous vous rappelez de cela? Et je me rappelle d'avoir écouté ça à la radio, le discours de Nasser, lorsqu'il a nationalisé le canal de Suez, il y a eu un quart d'heure de rire de Nasser qui était ce rire-là. L'éclat de rire de Nasser, c'est connu chez les journalistes. Un rire d'une grossièreté inouïe, de dérision sur les peuples du monde prétendant au canal de Suez. Mais c'est ce rire-là par rapport à Israël prétendant à Jérusalem. Et vous savez que c'est un problème contemporain. Okay. Voilà, ceux qui ont vécu dans l'islam, et je vais y revenir tout à l'heure, en vous prévenant qu'il ne faut pas faire de généralisation, vous pouvez avoir à l'échelle individuelle des musulmans qui sont des tzadikim. On parle ici d'un profil typologique, d'une identité de contestation sur Israël, et avec un problème du rire. Le rire chez Isaac, c'est un rire comprimé jusqu'à la fin des temps, réprimé jusqu'à la fin des temps. Alors que le rire d'Ishmaël, c'est un rire dans l'instant, et ce rire, on dit les hachamim, annonce le risque, c'est moi qui ajoute le risque, mais vous verrez pourquoi, de l'idolâtrie, de la débauche ou du meurtre. De quoi s'agit-il? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, le rire au présent? Eh bien, ça veut dire que je suis satisfait de l'état actuel du monde. Le rire exprime la joie, disons la limite, la satisfaction, mais surtout la jouissance de dans l'instant. Alors là, nous sommes sur le bord d'un sujet très important qu'il faut étudier dans la Gemara, parce que la Gemara parle de cela. À propos d'un verset que vous connaissez, vous le chantez dans le psaume, « Az imale srok pinu »« Alors notre bouche s'emplira de rire. » La Gemara enseigne, on n'a pas le droit de rire et que cela, tant que le monde est dans l'état où il est. Donc, rire au présent, ça veut dire se satisfaire de l'état du monde comme il est. Et par conséquent, se satisfaire de l'état du monde comme il est, ça veut dire assumer le mal qu'il y a dans le monde, dans l'état où il est encore. C'est-à-dire, un fils d'Isaac ne peut pas rire tant que le monde est ce qu'il est. Il ne rira qu'à la fin des temps. Alors, la Gemara continue, à propos du verset que je viens de vous citer, « Az imale srok pinu » quand ?« Az yomru bagoyim iridil Hashem la asot imele » Vous connaissez le psaume, ok? La Gemara dit « Quand on dira chez les goyim, Dieu fait de grandes choses avec cela. » Cela, c'est les descendants d'Isaac, c'est Ismaël. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé que chez les goyim, on commence à se rendre compte de cela, mais je crois que oui. J'ai vécu le temps d'avant l'État d'Israël, d'avant la Shoah, et la manière dont les goyim se rattacher au peuple juif, à Israël, c'était cette manière de dérision, de mépris. Subitement, Israël existe, et puis on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple-là? Vous avez compris ce que je veux dire? Je pourrais vous donner un exemple qui m'a frappé, mais il y en a des milliers. Entebbé. Quand il y a eu Entebbé, alors ce verset s'est réalisé dans les journaux. On a dit, Dieu fait des grandes choses avec ces gens-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Ensuite, les juifs eux-mêmes ont oublié. Et je me rappelle une parenthèse, il y a un rabbin que j'ai entendu, anti-sioniste, et qui a dit après Entebbé, vous voyez qu'il peut y avoir des miracles, même Rousselaret, authentique. C'est un grand qui a dit ça. Moi, alors, il a oublié que c'était les travaux d'Hercule. Enfin, Hercule, c'était l'avion avec lequel ils sont arrivés, c'était un Hercule, qui venait d'Israël. Bon, je referme la parenthèse. Et la Gemara dit, il est interdit de rire, et que cela, d'emplir sa bouche de rire, dans ce monde-ci. Et la Gemara explique tout de suite, avant les temps messianiques. « Assur le Adam, sheimale srokpi baolamazé, sheneema az imale srokpi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?« Assur sheimale srokpi baolamazé » jusqu'à au temps du Mashiach. Alors oui, si vous rassemblez tous ces éléments que nous avons vus dans cette analyse, vous verrez que nous sommes entrés dans un temps différent. Je vous rappelle brièvement, on commence un peu à rire au Kotel, chez les goyim, on commence à dire tiens, tiens, tout ça c'est prévu par la Gemara. Mais je reviens au sujet. Ça veut dire, il y a dans la sensibilité juive une incapacité d'adhérer au temps présent, tant que le monde est ce qu'il est. Vous avez dû remarquer cela, les juifs ont toujours été anachroniques. Il n'y a eu que deux périodes, trois, dans l'histoire, où les Juifs ont été de leur temps. Au pied du Sinaï, au temps des Maccabées et de notre temps, où on a été branché sur une histoire au présent. Bon, c'est un sujet pour lui-même, je le signale en passant. Nous avons toujours été d'un anachronisme absolu, c'est-à-dire nous définissant par rapport à un passé, le passé hébreu, et une espérance, la restauration de l'identité hébraïque. Vous êtes un temps différent, parce que vous êtes né après ces 2000 ans de l'exil. Mais ceux qui ont eu l'expérience de ces 2000 ans de l'histoire juive, et vous lirez toute la littérature qui en parle, ne peuvent pas ne pas reconnaître cette expérience. Un juif a toujours été anachronique. Est-ce que c'est clair? Bon, ça fait partie de notre sujet. C'est-à-dire, on ne peut pas adhérer au temps présent, tant que le monde est ce qu'il est. Voilà le secret du rire au futur d'Isaac. Et lorsque Sarah voit un fils d'Abraham rire au présent, elle dit, c'est ça l'échec. Est-ce que c'est clair? Bon. Bon, je pourrais élargir cela encore, mais ça suffit, je pense. Voilà ce que Sarah a vu dans le présent du rire de Ishmaël. Metzarek. Metzarek, ça veut dire rachar. Et rachar, ça veut dire quoi? Eh bien, ben Adam Lamakom, c'est l'idolâtrie. Ben Adam Lahavero, c'est le meurtre. Ben Adam Lehatzmo, c'est la débauche. Donc, ce qu'ont dit les Hachamim, les maîtres de Rabbi Shimon Bar Yochai, est clair. Elle a vu un rachar et les Hachamim ont donné la définition. Alors maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas satisfait de ça? Vous avez compris le problème? Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Oui. Oui. Chez les temps des Maccabées. C'est-à-dire, bon, c'est pas la peine d'analyser, c'est clair. Là, nous avons été branchés sur une histoire au présent. Ça fait partie d'un problème encore plus vaste que je vous signale, puis tu as posé la question. C'est que la Torah, semble-t-il, ne parle pas de la jeunesse. Le thème jeunesse, ça n'existe pas, semble-t-il, dans la Torah. En réalité, ça existe, et très fondamentalement. Mais qu'est-ce que c'est être jeune? C'est une question. Non, je ne dis pas qu'être jeune, c'est une question. Je pose une question. Non, en français, si tu veux. Ah, attendez, il y a 1000 dimensions au problème. Je vais expliquer la question. Est-ce une question d'âge? Apparemment, c'est une question d'âge. Bon, c'est très bien que ce n'est pas une question d'âge. Il y a des jeunes qui sont vieux, il y a des vieux qui sont jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quoi être jeune dans ce sens-là? Alors c'est une question d'âge. C'est pas ça. Hein? Il a fait. C'est être de son temps. C'est ça être jeune. C'est clair? Bon. Alors effectivement, la Torah n'a été donnée, l'alliance de la Torah n'a été donnée qu'on a révéné Israël, aux jeunes gens d'Israël. C'est un verset sur lequel on passe, parce que pendant 2000 ans, on était démunis d'une Torah pour un mouvement de jeunesse. Mais je vous ai dit l'essentiel. C'est les temps où il y a un mouvement de jeunesse. Juif, c'est les temps où les Juifs vivent leur temps. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et ceux qui ont pratiqué un mouvement de jeunesse, ça se dit en français comme ça, pratiquer un mouvement, c'est pas joli. Ceux qui ont vécu, hein? Adhérer. Non. Ceux qui ont vécu le mouvement de jeunesse savent que c'est différent d'avoir vécu comme juif en tant que mouvement de jeunesse, et pas. C'est différent. Il y a des clubs, mais ce n'est pas le mouvement de jeunesse. Par exemple, les clubs de la jeunesse juive de Trifouillé-les-Oies. Okay, ça existait. Ça s'appelait l'association Schéma Israël. Et c'était des jeunes, vieux, dont vous n'avez aucune idée. Bon, Trifouillé-les-Oies, je ne pourrais pas vous dire où c'est. Le Mercas de Strasbourg, ça vous dit quelque chose? Ben, c'est pas là-bas. Bon, c'est aussi là-bas. Et alors, vous voyez à quoi je fais allusion? Les clubs de la jeunesse juive, de la jeunesse israélite. Ah oui, ces clubs de la jeunesse israélite. Ils avaient d'ailleurs avant la guerre une revue qui s'appelait Eliassin. Ça vous dit rien? T'as connu ça? Eliassin, le journal de... C'était, moi, de mon temps, il y avait Le Petit Illustré, il y avait je sais plus quoi encore. J'ai oublié de mettre. Les journaux pour gosses, là, comment on appelle ça? Hein? ma sœur lisait La Semaine de Suzette. Enfin, vous voyez à peu près à quel niveau. Alors, il y avait Eliassin, et on racontait les aventures d'un jeune israélite. Bon, ça faisait anachronie, décalage, on ne s'y reconnaissait pas. Nous, quand on disait juif, on voyait tout de suite un vieillard avec tefillin. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, pitom, subitement, vous voyez Boucher Mounir. C'est ça, être jeune. Pourquoi il fait la politique? Pas du tout. C'est pire. Bon, disons, un chalout. Et. Oui, moi je porte encore une kippa de vieillard, parce que j'étais de ce temps-là même jeune. Tandis que maintenant vous avez des kippotes comme ça. Vous voyez cette différence? Bon, alors on ne va pas commencer une discussion sur la couleur de la kippa. Mais, au pied du Sinaï, l'alliance de la Torah n'a été tranchée que lorsque les jeunes gens d'Israël ont dit Naaseh Benishma. Et les autres disaient Naaseh, Naaseh. Quand les jeunes gens ont dit Naaseh Benishma, regardez bien le contexte, alors l'alliance de la Torah a été contractée. C'est clair? Vous voyez le verset? Il y a trois versets. Deux fois Naaseh, une fois Naaseh Benishma. Et Naaseh Benishma, c'est avec Naaseh Ben Israël. Vous verrez le contexte. Bon, les Maccabis, vous savez ce que c'est que les Maccabis. Et puis maintenant, c'est maintenant. Voilà, grosso modo. Je referme la parenthèse. Alors, il nous reste maintenant la question de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui peut suggérer une réponse? Sauf les anciens Mayanotes. Parce que si vous répondez que vous ne savez pas, gare à vous. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la maison de Otto Tzadik, dans la maison d'un tel Tzadik. C'est-à-dire, quand Ishmael est vraiment dans la maison de son père, il n'est pas comme ça. Que ça veut dire Ishmael vraiment dans la maison de son père, acceptant la tradition d'Abraham? Ça s'appellera l'islam. Avant le temps de l'islam, la descendance d'Ishmael, c'était des gens superstitieux, idolâtres, comme c'est pas possible. C'était c'est toujours un peu, mais c'était des débauchés. Et c'était des meurtriers. Un musulman n'est pas comme ça. S'il est vraiment musulman. Un musulman n'est pas idolâtre, un musulman n'est pas débauché, et un musulman n'est pas assassin. Malheureusement, ils sont aussi. À cause de quoi? Alors, vous comprenez maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, quand Ishmael est dans la maison de son père, c'est pas ça. Et quel est son rire? Le rire de dérision sur l'héritage. Vous avez compris? Effectivement, dans l'histoire d'Ishmaël, il y a eu l'événement de l'islam. L'événement de l'islam, c'est la tchouva d'Ishmaël à la religion d'Abraham à sa manière, lui Ishmaël. Et donc, Ishmaël peut être tzaddik en tant qu'Ishmaël. Qu'est-ce qui manque pour que sa tchouva soit achevée, qu'il cesse de disputer l'héritage d'Israël? Et quand la Torah nous raconte la tchouva d'Ishmaël, c'est quand il cesse de réclamer l'héritage d'Israël, vous le verrez à la fin de la paracha de Hayesara, donc la Torah nous raconte l'enterrement d'Abraham et que Ishmaël revient d'Égypte à l'enterrement d'Abraham à Hébron en reconnaissant que c'est Isaac qui est chez lui. Vous verrez le contexte. Alors là, il est appelé fils d'Abraham et là, on parle de lui comme un tzaddik qui a fait tchouva. Mais où est sa tchouva? Après l'islam, la paix avec Israël. Voilà. Et parce que quel est l'objet de la contestation? C'est l'héritage d'Abraham sur terre, c'est-à-dire ce que nous appelons la terre d'Israël. Vous avez compris donc le raisonnement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas qu'il s'oppose à l'enseignement de ses maîtres, c'était ses maîtres. Mais il dit qu'il y a deux niveaux. Alors malheureusement, c'est moi qui ajoute ça, hein. Je ne vais pas me mettre avec eux. D'autre part, okay, c'est qu'on voit bien que même musulman, Ishmael est comme ça. Et encore une fois, c'est une interprétation personnelle. Et je crois qu'il est comme ça tant que le rire contre Yitzhak continue. Voilà, c'est lié. Hein? C'est clair. Alors je voudrais, très brièvement, parce que oui, il nous reste un peu de temps, essayer de formuler cela maintenant, si vous voulez, au niveau des catégories théologiques, pour essayer de vous transmettre un peu une définition de l'islam en tant qu'expérience religieuse. Je vais dire deux phrases, et je pense que ça suffira. Le musulman est un vrai croyant qui a un créateur. C'est un croyant dans le Dieu d'Abraham, qu'il ne connaît pas, à qui le Dieu d'Abraham ne s'est pas révélé, ne lui a pas donné la Torah, mais à qui Mahomet a transmis une approximation de Torah sous forme de Coran, okay, de Mikra. Coran, ça veut dire Mikra en arabe. Okay. Et si vous connaissez un peu les rites de la religion d'Ismaël, vous verrez que c'est une sorte de judaïsme sommaire, approximatif, pour apprenti sage, si j'ose dire. Okay. Et, si vous voulez, j'ai anticipé un peu, si un jour la paix, ça c'est vraiment halom, okay. Si un jour la paix avec Ismaël, il se dévoilera qu'un musulman est plus proche d'un juif que jamais aucune autre sorte d'autre homme n'a été proche. Mais sous forme d'approximation, comme je vous dis, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, un Ismaël qui rit dans le présent, alors qu'Israël, c'est le fils d'Abraham qui rit, je dirais pourquoi, mais qui réprime son rire jusqu'à ce que le monde devienne capable d'être ri. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et donc, Ismaël peut être sadique en tant qu'Ismaël. Et premièrement, dans cette définition positive, c'est un vrai croyant au Créateur, pas un idolâtre. Il y a un Créateur, et il est soumis à la volonté du Créateur. Et il reçoit, il a conscience de recevoir ce que le Créateur donne à sa créature. La prière de l'islam, si vous voulez, n'a rien à voir avec la prière chrétienne, qui pour nous est une prière idolâtre, païenne. Alors que la prière de l'islam, c'est la prière d'un croyant fils d'Abraham. Mais dans cette lignée approximative avec le rire maintenant. Et c'est quoi? Ça, c'est le deuxième point. Mais c'est clair jusqu'à la première. C'est l'homme de la jouissance immédiate du monde tel qu'il est. Il jouit du monde tel que Dieu le lui fait maintenant. Alors c'est là que nous nous séparons de lui. C'est pourquoi sa théologie peut être compatible avec le monothéisme hébreu, mais pas sa morale. Parce que c'est la morale de la jouissance du maintenant, du rire maintenant. C'est clair? Voilà. Eh bien, je crois que ça suffit un peu pour caractériser un peu le profil de la sensibilité religieuse de l'islam. Et c'est pourquoi il va intégrer dans son sacré le meurtre, la débauche et l'idolâtrie, si ça se présente dans le maintenant. Mais un vrai musulman rejette ça. Vous avez des musulmans très pieux qui ne comprennent pas que assassiner quelqu'un, c'est un assassinat. Ils ne comprennent pas. Et vous avez des musulmans très pieux qui rentrent dans leur harem comme si c'était un cabaret grec ou libanais. Et vous avez des musulmans très pieux non, là je crois que les musulmans très pieux n'arrivent pas jusque-là. Non, mais j'en sais rien. Eh bien, mais qui sont capables de superstition. Vous savez que la superstition, c'est le commencement de l'idolâtrie. J'essaie de retrouver dans ma mémoire, et voilà, je retrouve. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prendre le vin des goyim. Vous savez cela, on appelle Stamiaïm. Stamienam. Donc, eh bien, Midoraita, le vin d'un musulman, on peut le prendre, parce qu'il n'est pas idolâtre. Mais les rabbins, c'est interdit. Mais une des raisons, et je me rappelle l'avoir étudié avec un rabbin d'Algérie, déjà en Algérie, avec le rabbin Naouri, quand il était encore en Algérie, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais s'il est superstitieux ou pas. Donc les rabbins ont interdit à cause de la superstition. Mais Midoraita, c'est permis, parce que Midoraita, ils ne sont pas idolâtres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Okay. Bon. Et voilà donc un peu, si vous voulez, très grosso modo, cette typologie. Je veux revenir juste sur un point qui me paraît important pour nous cette fois, c'est de comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire que le rire d'Israël est au futur? Et qu'il faut prendre ça au sérieux. Vous avez remarqué, dommage que je n'ai pas le temps de vous le faire dans la Gemara, parce qu'on arrive à l'heure, mais vous avez remarqué à quel point il y a eu dans l'histoire juive, et je pense surtout à l'histoire juive de l'exil, celle que nous avons connue. Maintenant, nous sortons de cette histoire, mais je parle de l'histoire juive. Il y a eu, et c'est surtout chez les Ashkenazim, mais quand même aussi chez les Sfaradim. Chez les Ashkenazim plus, parce que les Ashkenazim ont plus vécu l'exil que les Sfaradim. Ça ne veut pas dire que l'exil des Sfaradim n'est pas un exil terrible, mais toute proportion gardée, les Ashkenazim ont plus souffert dans l'exil. Je dis bien toute proportion gardée. Et vous me rappellerez de parler de ça maintenant. Si vous avez entendu des prières dans le monde ashkénaze traditionnel, pieux, eh bien, même si c'est un jour de joie, ça pleure. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire une tendance aux larmes. Et le rire, c'est pas cachère. Un juif rire. Vous comprenez de quoi il s'agit? Il y a une sorte de refus du monde tel qu'il est qui fait qu'on ne peut pas avoir de joie de la jouissance du monde tel qu'il est. Et il y a une autre camarade qui dit, c'est un autre exemple qui va vous éclairer, quelqu'un qui reste une semaine sans rêver, c'est un rachat. Mais dans la culture occidentale, on dirait juste l'inverse. On parle du sommeil du juste. Tout le contraire. Pour la culture occidentale, un juste a un sommeil paisible. Qu'est-ce que vient nous dire la Gemara? Une semaine sans rêver, dit les brachot, une semaine sans rêver, nikra rachat. Je vous dirai l'explication que j'ai reçue de mon maître, c'est que, de quel rêve il s'agit? Il s'agit des rêves de ce qu'on pourrait appeler, lorsqu'on revit ce qu'on a vécu, et qu'on a cette gêne du scrupule, du remords, que ce n'était pas halak, que ça ne s'est pas passé bien. Alors on a le sommeil agité. On ne peut pas dormir paisiblement. On dort paisiblement que Shabbat. Je ne sais pas si vous savez ça. Okay, là, il y a une autre raison encore, mais qui se greffe. Comme Shabbat, on n'a rien à faire, alors on n'a pas de remords. Mais dans la semaine, on n'a jamais fait ce qu'on devait faire, alors on ne peut pas dormir bien. Vous avez compris, grosso modo. Mais, en plus que Shabbat, il y a une mitzvah de dormir. Shabbat, c'est otiot, shena, be Shabbat, ta'anouk. Et la mitzvah doit se faire le jour, parce que la nuit, c'est normal de dormir, même un autre jour de la semaine. Donc, il faut dormir au moins un peu dans la journée de Shabbat. Halakha. Okay. Et c'est pour ça qu'on vous multiplie les cours pour que vous puissiez dormir ou quoi. Et vous voyez de quoi il s'agit. Quelqu'un qui est satisfait du monde tel qu'il est, c'est un rachat. C'est ça que ça veut dire, toutes ces citations. Qu'est-ce que c'est un rachat? C'est celui qui est capable d'admettre le monde avec son bien et son mal et en jouir. Ça, c'est Ishmael. Il rit maintenant. Voilà ce que je voulais. Je reviens pour terminer à ce que j'avais signalé concernant la différence de souffrance des Ashkenazim et des Sfaradim. D'abord, c'est une légende de croire que l'exil en pays d'Islam, c'était un paradis. Ce n'était pas du tout un paradis. Ça a été vivable et supportable que quand il y avait l'occupation chrétienne. Alors à ce moment-là, les chrétiens protégeaient les juifs. Et ça a l'air paradoxal de ce que je vous dis là. Okay. Bon, vous savez qu'il y a une légende maintenant chez les Sfaradim de Khouzlaret qui se rappelle avec nostalgie du temps où on était bien chez les Arabes, qu'est-ce qu'ils font en France, on se demande, et qui exhorte les Israéliens à laisser les Arabes prendre leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez à qui je fais les yeux. Okay. Et ça, c'est une légende. Mais je me souviens d'avoir étudié une fois avec un de mes maîtres, Jacob Gordin, c'est comment les Bracha, on étudiait dans le Shla d'ailleurs. On étudiait Shefo Chamatecha et Ragoïm, qu'on lit au Seder de Pessah. Il avait dit comme chose qui allait de soi, Shefo Chamatecha et Ragoïm, Ashallah Yedaoucha, c'est Ishmael. J'ai réagi en disant, je venais arriver à peine des pays d'Islam, et j'étudiais avec un rabbin des pays Ashkenaz, qui n'avait jamais vu un arabe de sa vie. D'ailleurs. Alors il dit ça, c'est pour Ishmael. Ishmael qui est Achzar. La cruauté d'Ishmael, ça dépasse toutes les autres. Me disait ce rabbin. Il avait expliqué que c'est Achzar cruel, c'est Achzar, uniquement étranger. Achzar, vous entendez en hébreu. Plus que Essa. Alors nous étions habitués à l'idée que ça allait de soi. Les Ashkenazim ont plus supporté dans l'exil chez Essa, les croisades et tout ce que vous voudrez, que les Sfaradim dans l'exil chez Ishmael. Alors il m'avait donné un enseignement suivant que je vous transmets en disant ce qu'on appelle l'antisémitisme. C'est un peu bizarre quand on parle de sémites, anti-juifs, on dit antisémites, que l'antisémitisme d'Ishmael est plus terrible que celui de Esav, parce que l'antisémitisme de Esav va accompagner la galoute, alors que l'antisémitisme d'Ishmael accompagne le retour. Est-ce que vous voyez la différence? Et c'était d'ailleurs avant l'État d'Israël. Et encore une fois, cette surprise, je l'ai eue en étudiant le Maharal aussi, ils ne connaissaient pas l'islam, ils n'ont pas vécu dans l'islam comme nous. Et bien, ils le connaissaient mieux que nous. Et effectivement, ça s'est dévoilé. Lorsque Ishmael veut détruire Kinachal et Naveu, Kinachal et Yaakov et Naveu et Shamu, lorsqu'ils veulent détruire Israël, ils le détruisent sur la terre d'Israël. Et c'est plus terrible que lorsque les chrétiens ont détruit les ghettos. Et, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Bon, je referme donc la parenthèse. Voilà, je vous ai donné un exemple, et c'est beaucoup plus ample que cela, de ce que représente cette rivalité Ishmaël-Yitzhak. Et en quoi, c'est-à-dire, il n'y a pas de solution de type politique à vue d'homme. C'est un problème d'identité messianique, de rivalité qui est dès l'origine. Et les juifs contemporains qui pensent au conflit judéo-arabe, comme ils disent, en termes de politique contemporaine, ne voient aveugle, ne voient pas du tout de quoi il s'agit. Les musulmans, eux, le voient comme il le faut. Et pour eux, c'est un blasphème qu'Yitzhak remplace Ishmael, tant qu'ils sont encore dans cette contestation. Un jour, il arrivera que, comme le prévoit la Torah, Ishmael reconnaîtra que c'est Isaac qui est chez lui. Et peut-être que ça commence, mais j'en sais rien. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut être lucide, voilà de quoi il s'agit, et que ce n'est pas par hasard, que c'est sur la terre, l'héritage de la terre que porte la contestation, et qu'elle est ce qu'elle est depuis l'origine. Si un jour vous parlez avec un musulman qui a assez confiance en vous pour vous dire ce qu'il pense, ben c'est ça qu'il vous dira. Bon, voilà donc cet exemple. Alors vous me rappelez, tu me rappelleras pour la semaine prochaine, si Dieu veut, qu'on étudie Abimelech et puis le Zohar sur la naissance d'Ishmaël. Donc, à Shabbat Shalom, allez.